bienvenue sur Bagro Point pour ce 11e podcast numéro 11, cette fois dédié à une série dont je ne sais même pas dans quelle langue il va falloir dire le titre. On parle bien sûr de Vampire ou peut-être Darkstalkers, mais on va peut-être se mettre d'accord tout de suite sur est-ce qu'on parle du nom japonais ou du nom américain.
Alors comme on est des vrais weebous, je pense qu'on va dire les noms japonais, parce que ce sont les noms américains de Capcom Amérique. Sucks, you sucks Capcom America, you sucks.
Eh ouais, et vous l'entendez, nous avons un nouvel invité cette semaine pour ce podcast, et oui c'est bien Valentin. Bonjour Valentin, ça va bien?
Bonjour Thomas, ça va super bien, tu me réveilles, tu viens chez moi tranquille avec 4 personnes bizarres pour jeter des podcasts de merde, mais ça fait plaisir de voir quand même.
Ah là. Et donc tu es ici pour nous parler de la grande science de Vampire Savior.
J'ai même pas réussi à passer un tour au tournoi Fight Play la semaine dernière, mais on va essayer.
Allez.
J'ai le jeu dans ma borne, cela dit.
Ah, ça c'est bien. Avec nous, il y a également TMDJC, comme d'habitude.
Bonjour tout le monde.
Voilà. Ça va, TMDJC?
Ah ouais, ça va bien.
Chaud bouillant pour le succube. Chaud bouillant pour le succube. Et nous avons bien sûr Wael, qui est avec nous aussi cette semaine. Salut Wael.
Salut les jeunes.
Alors, monsieur le retraité, tu vas bien?
Ça va très bien.
Ouais. Tu vas pouvoir parler normalement pour le reste du podcast?
Ouais, pour le reste du podcast, ça devrait aller.
Ça marche.
Il fait genre, il est retraité, il va faire cool tous les vieux avec une retraite de merde, c'est-à-dire qu'il va être obligé de venir retaper des events pour avoir sa dose.
J'ai déjà eu deux, trois propositions pour aller taffer dans des events comme un bon sbire.
Parfait.
En fait, quand on prend sa retraite, on devient sbire, d'accord?
Exactement.
Okay. Moi, je prendrai jamais ma retraite, alors.
Allez. Et bah avant de prendre la retraite totale, on va parler de Vampire Savior, de Vampire tout court en fait, de la série Vampire. Et alors, on va
avec des morceaux de Robert Pattinson dedans.
On va recontextualiser un petit peu. On est en 1994.
Tout à fait.
Il y a pas mal de jeux qui sont sortis, des World Heroes, des Virtua Fighter, quoi d'autre encore?
On a 2X qui vient de sortir. Il est sorti en mars, et en avril on avait World Heroes 2 Jet qui sortait de nos amis ADK. On est en juillet quand sort ce jeu. Alors évidemment, il n'est pas sorti de nulle part. Hein. Il y a bien sûr eu un avant. Ça fait un bout de temps en fait que beaucoup de personnes, notamment les joueurs, disent à Capcom que Capcom n'est le développeur que d'un seul jeu. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, parce que Capcom fait d'autres choses que Street Fighter. Mais en termes de jeux de combat, c'est vrai qu'il y a Street Fighter et Street Fighter et Street Fighter chez Capcom.
Et Street Fighter Prime et Street Fighter 2 Dash.
Et on tourne un petit peu en rond là-dessus. Des éditeurs comme SNK ont prouvé de multiples reprises qu'ils étaient capables en fait de créer des licences différentes.
C'est aussi ça le problème. Je pense qu'il y a aussi un désir de Capcom de d'essayer de grignoter, enfin de ne pas laisser remettre en cause son hégémonie.
Complètement.
Parce que justement, SNK est super prolifique à cette époque. Il y a plein de styles de jeux différents qui sortent. Et même si Street Fighter en arcade cartonne toujours autant et que c'est toujours le roi. Il faut bien avouer que fondamentalement, ils ont vraiment besoin de se renouveler un peu, ne serait-ce que pour plus tard, pour le long terme en fait.
Mais ils savaient à l'époque déjà que 2X serait le dernier Street Fighter 2. Bon, finalement, il y en a eu encore d'autres après, mais là, à l'époque, en tout cas, ils se disaient, ok, c'est bon, 2X, c'est le dernier Street Fighter 2, on s'arrête là, on prépare Street Fighter 3, ils étaient déjà en train de bosser sur le projet, mais il nous faut une nouvelle série. Alors Capcom est confronté à plusieurs problèmes, c'est ils veulent proposer un nouveau type de gameplay. Ça, il n'y a aucun problème, on est d'accord là-dessus. Le souci, c'est que par principe, et on en a déjà parlé dans les podcasts précédents, ils ne veulent pas faire comme SNK, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas récupérer en fait les éléments qu'SNK a rajoutés en disant « Oui, nous on fait un nouveau jeu, mais en prenant les trucs d'SNK, non, il faut qu'on arrive à trouver quelque chose à notre sauce. » Et le départ de Vampire, c'est pas tant ce que ça va devenir à la fin, c'est « Il nous faut un nouveau gameplay. » Donc ils veulent créer un nouveau jeu, ils ne veulent pas de la série Street Fighter pour les raisons qu'on vient de citer, mais également pour ne pas abîmer la série d'origine. Ils ont cette volonté en fait de garder intact. On dit souvent que Capcom a travaillé sur les mêmes sprites. C'est vrai, c'était pour des raisons également économiques, mais c'était surtout parce que quand ils avaient quelque chose qui fonctionnait, ils ne voulaient pas toucher ce qui fonctionne. Ils gardent en l'état ce qui marche. Le jour où ils doivent faire autre chose, ils font autre chose, mais tant que ça fonctionne, on garde l'équipe qui marche. Et ils ont eu raison de le faire à chaque fois. On a eu plein de preuves là-dessus de nombreuses fois sur les jeux Capcom. Donc là, ils décident de créer quelque chose de beaucoup plus souple de Street Fighter. Ils ont plusieurs idées qu'on va amener dans un court instant. L'une des idées principales, c'est de montrer avancés, qui sont capables de faire des animations qui est bien au-dessus en fait de ce qui se fait à l'heure actuelle. Donc ils veulent grosso modo un gameplay plus souple, ils veulent des personnages qui sont capables de se tordre dans tous les sens. La question va être qu'est-ce qu'on peut prendre comme environnement pour pouvoir avoir un jeu qui cumule en fait ces deux choses.
Donc tu veux dire que la thématique du jeu à la base découle également
du
gameplay et de volonté technique de prouver qu'on a une capacité technique et qu'on va la faire. Sachant qu'à l'époque, on est quand même dans beaucoup de jeux, peut-être hormis Virtua Fighter qui pour le coup est une simulation, on est quand même dans une branche très street fighting,
complètement,
on va dire, donc de combats de rue avec des combattants de rue, ou alors à la limite des combattants de rue d'il y a des siècles ou des dizaines d'années comme on voit dans Samurai Spirits où au final il y a des ronins, il y a des gens comme ça. Donc le but en fait c'est vraiment de se démarquer de tout ça pour pas refaire Street Fighter, mais il y a une hégémonie technique qu'on veut imposer finalement et qui va dicter la thématique du jeu, c'est ça quoi.
Tout en gardant, et ça c'est très important pour eux, le calque de Street Fighter. Et on va le voir dans un court instant, le calque de base de Street Fighter, il est sur l'ombre totale du premier Vampire. On y reviendra, que ce soit bien sûr sur le gameplay, mais également dans les personnages choisis, parce qu'on verra que l'archétype des personnages est très proche de ceux qu'on a également dans Street Fighter. Je parle bien du premier épisode.
Ok, alors, donc le premier épisode, venons-y, il sort en 94, on a dit.
Voilà, en juillet 94.
Mais il était développé depuis combien de temps? Ils ont mis combien de temps à le faire?
Alors, ils ont été très rapides pour faire Vampire, en fait, parce qu'entre le moment où ils ont décidé qu'ils faisaient autre chose et le moment où le jeu est sorti, en fait, il s'est passé moins d'un an, ce qui est relativement court quand on fait une toute nouvelle série de A jusqu'à Z.
D'accord, un an seulement pour le faire. Et ils produisaient d'autres jeux en parallèle?
Ils produisaient bien sûr d'autres jeux en parallèle. Ouais. Capcom n'a pas fait que Vampire. L'équipe D'accord. d'ailleurs qui s'est occupée de Vampire est relativement petite. Et il y a plusieurs des mecs de développeurs de Street Fighter qui étaient également dans l'équipe. Donc ils savaient. C'était une équipe qui tournait très bien en fait.
D'accord. Et donc de base, quel est donc le sujet, enfin l'univers qu'ils ont choisi donc, pour répondre à toutes ces contraintes techniques et. Philosophique, on va dire, c'est...
Voilà, l'environnement graphique global, en fait, grosso modo, c'est les monstres des films d'horreur. Alors, particulièrement au départ, les films d'horreur américains, on est plutôt dans le folklore, en fait, des monstres qu'on va retrouver en Europe et aux États-Unis. Pour autant, on verra qu'ils taperont aussi dans leur propre folklore japonais avec plusieurs personnages.
D'accord. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire pour commencer leur... Parce qu'on a dit qu'ils s'installent dans quelque chose de... Tu dis, ils veulent de la déformation, ils veulent faire quelque chose... Quelque chose comme ça. En quoi s'installer dans des légendes va les aider finalement à pouvoir déformer leur sprite, pouvoir faire plus de choses? Qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qui va vraiment les aider? Parce qu'en un sens, on pourrait dire, on prend certes un Yeti par exemple, un Sasquatch, il y a Sasquatch dans le jeu, c'est juste un Yeti, on pourrait dire, c'est juste un gros bourrin à la Zangief qui attrape les gens et qui fait des choses comme ça. Donc il y a quand même... Au-delà du, il y a un parti pris et un graphisme qui va changer quand même. Qu'est-ce qui va se passer globalement?
Il est complètement cartoon le parti pris. Les personnages en fait sont pas dessinés très sérieusement et les têtes que font les personnages. Alors déjà dans le premier, mais c'est encore pire par la suite. À chaque fois que les personnages prennent des coups, il y a vraiment une marque particulière. Ils brûlent, mais comme ce sont c'est pas des êtres humains finalement. Bah ça leur fait pas grand-chose. Ils se relèvent comme si de rien n'était. Donc ils vont vraiment on a l'impression à plein de moments de regarder un cartoon de Tex Avery.
Il y a une dédramatisation en fait complètement un peu de l'aspect combatif finalement. Là.
Tout à fait, ce qui leur a permis notamment Capcom USA en fait de passer, parce qu'à l'époque Capcom USA commençait déjà à donner des notes au jeu en termes de violence, et ça leur a permis en fait de descendre de deux notes en fait sur une échelle qui était de 10 de mémoire à l'époque, où ça leur a permis de dire voilà, le jeu il est pas si violent que ça, vous voyez la tête que font les personnages, donc ils avaient négocié aussi ça. Alors c'était pas volontaire de la part de Capcom Japan, hein, mais les commerciaux de Capcom USA ont pu arriver et dire regardez, c'est pas si violent que ça. Alors que dedans, t'as des personnages qui sont coupés en deux, qui sont cramés.
T'as des paires de seins aussi assez apparentes et des choses comme ça.
Assez apparent également, on va y revenir.
C'est encore difficile aujourd'hui, la série Darkstalker à ce niveau-là.
Tout à fait.
Donc, à la limite, tiens, puisqu'on parlait du folklore, est-ce qu'on peut parler un petit peu si t'as quelques exemples de personnages qui ont un peu marqué les esprits? Histoire de
grosso modo, on va bien sûr parler des personnages en long, large en travers, mais tout ce que je disais par rapport au calque de Street Fighter 2 dont on parlait tout à l'heure, on peut d'ores et déjà dire qu'il y a deux personnages qui sont clairement Shoto dès le départ. On a un personnage vert qui se met en boule régulièrement, coucou Blanca. On a un chopper qui fait des larias. Donc tous les personnages en fait ont cette ombre des personnages de Street Fighter derrière eux, enfin à peu de choses près, parce qu'il y a un personnage qui on peut pas dire qu'on est vraiment, mais quand on y joue, on dit ah oui, c'est un peu comme ah tiens, celui-là, il a des membres qui s'allongent, il est lent. Donc, on est vraiment dans cette définition de Street Fighter. Le premier personnage, le personnage phare du premier jeu, c'est Dimitri, qui est donc en fait le vampire du jeu, d'où le titre, qui est clairement un Ryu. C'est un personnage neutre, c'est un Shoto, il a des boules, il a un dragon, il a même un coup qui ressemble un petit peu à un Hurricane Kick, mais qui est une diagonale. Enfin, donc on
descend à 45 voilà, degrés.
Exactement, on ne peut pas ne pas penser à Ryu. Pour autant, on verra que ce personnage change de gameplay en fonction de la vitesse qu'on utilise, les dashs, les pas dashs, et on y reviendra dans un court instant. Le personnage est une évolution intelligente de ce que peut être Ryu, par exemple.
D'accord. On a quoi d'autre comme autre personnage?
Alors, on a le deuxième Shoto qui est un succube dans la personne de Morrigan, qui est du coup le personnage qui est à la fois un mélange de Ken, d'Akuma, puisqu'on a aussi des boules en l'air, où le personnage en fait s'appuie sur un gameplay qui est clairement offensif, puisqu'elle est moins puissante que Dimitri, mais pour autant elle est plus rapide et enchaîne plus facilement.
D'accord. Donc un succube, on a dit, faut pas qu'on fasse cette erreur là.
C'est un succube. Non, mais sinon, succube. On va se faire taper dessus par Valentin. Exactement. Il va dire non, les gars, déconnez pas, la culture, c'est important.
Voilà.
C'est notre chroniqueur de ONPC qui nous fait la morale. C'est quand même le monde à l'envers.
Ouais, je vous
le verrais bien sur le PAF faire les chroniques. T'es dans les émissions Canal Plus, un peu hipster, tout ça.
C'est beau. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme personnage rapidement? On a.
On a Félicia, on a le fantasme de tout le monde. Allez,
vas-y, Félicia, vas-y, voilà, parle-nous
de Félicia. Félicia, effectivement, la fille chat qui utilise ses griffes avec des morceaux de fourrure. Placé judicieusement pour couvrir certaines parties, c'est la partie un petit peu héros de Vampire à l'époque.
Et Félicia qui est un lien direct à Street Fighter, puisque dans l'ending de Félicia, en fait, on apprend qu'elle souhaite tourner un film avec Blanca.
La classe. Ah ouais, carrément.
Ouais, quand même.
On a quoi comme autre personnage sinon, en personnage?
Dans le premier.
Alors Lord, on a dit qu'on disait pas Lord Raptor justement.
On a dit qu'on disait Zabel.
Non, mais Zabel, il vient pas de Vampire Savior justement?
Ah non.
Non, Zabel vient du tout premier.
D'accord.
Zabel est dans le tout premier, oui. Donc c'est quoi? C'est une rockstar anglaise morte, c'est ça?
Voilà, c'est un zombie. En fait, c'est le zombie du jeu qui utilise ses os entre autres pour se battre et
qui joue de la guitare électrique.
Qui joue de la guitare électrique.
Voilà. Logique, on va dire.
Bon, après, ouais, de toute façon le cast de base, il s'est pas trop mouillé. C'est vrai que quand on y réfléchit, il y a juste apparemment Olbas, qui est connu comme Rikyo en Europe, l'homme poisson. On sait pas trop ce qu'il fait là dans le folklore.
Ouais, c'est vrai, bah là, c'est clairement folklore japonais pour le coup.
Quoique,
je dis une bêtise parce que autant effectivement, non, c'est pas tout à fait effectivement
Kappa.
En fait, il fait vraiment référence au Monstre du Lac, qui est un film de 1940, je crois, ou des
Ah oui,
comme
un
ça,
peu homme grenouille, un peu homme poisson, tout mélange.
Donc là encore, dans le folklore,
un peu Aquaman aussi dans le tas.
Ouais,
un peu homme de l'Atlantide.
Bon, on a notre ami le loup-garou. Hein.
Ouais, oh, lui, Tal Bane. Ouais,
déjà, à l'époque, ils étaient fans de Twilight.
Voilà, exactement.
Voilà, qui a des nunchaku.
C'est un pratiquant du kung-fu qui fait du.
C'est un loup-garou kung-fu.
En fait, il était déjà pratiquant de kung-fu avant. Ah, bon, il s'est fait mordre
par un loup-garou.
Donc, on a Victor, qui est le monstre de Frankenstein.
Ouais. Qui est le chopper du jeu, donc tu disais qu'il y a l'Ariat.
Entre autres, mais il a des. Enfin, il se joue pas que comme Zangief, parce que c'est un personnage qui a des dashs de malade, enfin ça change complètement.
Malade, j'irais pas jusque-là, il a des dashs.
Il a des dashs.
On est loin de Zangief. Hein.
Il a quand même une chope dans laquelle il t'attrape entre ses deux fesses aussi, oui. Hein, c'est quand même assez pas mal. Et le dernier dont on n'a pas parlé, c'est.
C'est la momie.
Il
y
en a plus que deux.
Ah non, il y en a deux, oui.
Il y a la momie déjà.
Il y a Anacharis.
Voilà.
Qui un Égyptien donc voilà. Vieille le Dalsim du jeu en fait.
Qui est clairement le Dalsim du jeu, tout à voilà. Fait.
On a
Bichamon.
Bichamon.
Et voilà. Et alors là c'est le seul personnage qui soit réellement original. Et comme par hasard on a eu Samurai Spirit avant et je ne sais pas jusqu'à quel point ça. J'ai pas d'infos. Là c'est vraiment une suspicion. Je ne sais pas à quel point ça a pu jouer dans le choix de Capcom de rajouter un personnage comme ça. Et puis on a le Yeti, Squatch dont on parlait tout à l'heure.
Peut-être la volonté effectivement de diversifier puis de rajouter une petite touche japonaise dans le jeu parce qu'au final c'est des folklores qui sont plutôt occidentaux, c'est une inspiration qui est plutôt occidentale à la base et là tu contrebalances le truc avec d'ailleurs au final Bichamon c'est quoi? C'est une armure
c'est une armure hantée
tout à fait.
Mais on reste quand même graphiquement comment dire dans du très gros stéréotype.
Ah mais ce jeu n'est que stéréotype.
Mais de toutes les manières, Capcom c'est une boîte de stéréotypes. De toutes les manières, Capcom depuis le début et jusqu'à maintenant, c'est du stéréotype.
Alors des fois ils l'ont créé le stéréotype.
Oui aussi, oui.
Mais effectivement,
il y a quelque chose sur lequel je voulais revenir aussi du point de vue visuel. On est dans un truc très cartoon. C'est bien le Darkstalkers. Il est sorti peu après ou peu avant, je sais plus. Il y a eu X-Men Children of the Atom. Il y a eu aussi.
Alors, X-Men est sorti après.
Et il y a eu aussi Street Fighter Alpha. Et c'est trois.
Qui est sorti après aussi.
Qui est sorti après. Et en fait, donc Vampire, le premier, est un peu le précurseur d'une nouvelle charte graphique aussi qu'on va trouver chez Capcom,
exactement,
qui est beaucoup plus dessin animé japonais, qui, au final.
Honnêtement, aujourd'hui, ça se sent. Ça se sent parce que le jeu, en fait, graphiquement, par rapport à d'autres jeux plus récents, a quand même vieilli. Les sprites de Vampire, il y en a certains qui sont assez dégueulasses.
Coucou Morrigan dans Capcom vs SNK 2. Pour tous ceux qui y ont joué. Ah oui, et donc oui, on a oublié, il y a Wellcook qui est là mais qui ne participe pas, qui nous dit c'était le premier jeu aussi qui montrait ce que le CPS2 avait dans les tripes. Donc
Le premier jeu de combat développé complètement sur CPS2, c'est pas une adaptation comme 2X ou comme Super Street 2 d'un jeu CPS1 où on le balance sur CPS2, c'était vraiment un nouveau jeu.
Et il y avait quoi comme différence entre le CPS2 et le CPS1 hormis un bon graphique
la taille de la mémoire du coup, qui permettait effectivement avec Darkstalker d'avoir des sprites qui avaient plein d'étapes d'animation supplémentaire.
T'as le processeur qui est un peu plus rapide et t'as la structure tout autour de l'architecture avec des coprocesseurs à côté qui sont un peu plus performants, qui fait que graphiquement il peut aller un peu plus loin plus facilement que le CPS1.
Et aussi le nombre de couleurs affichées.
Oui.
C'est tout simple. C'est une des grosses choses qui fait que Darkstalker et les suivants ont cette patte, comme on dit, c'est une patte CPS2. On sait que c'est toute cette génération-là, de celui-là en gros à Alpha 3 et Marvel 1 ou Marvel, même Marvel 2 n'est plus dessus, mais non. Même Marvel 2 continue, transporte un petit peu ce style-là.
Bah oui, vu que de facto ils ont repris les sprites du 1 pour ça.
C'est-à-dire qu'en fait c'est un peu l'inauguration de la patte graphique CPS2 vraiment de chez Capcom.
Complètement.
Qui arrive, ne serait-ce que par les couleurs. C'est vrai que le jeu, même aujourd'hui, visuellement, il pète encore bien la rétine.
Tu peux enlever le un peu de ta phrase, oui.
Ouais, voilà. D'accord.
Complètement avec des aplats partout. Enfin, c'est vraiment un style. Un style ultra particulier.
D'accord. Est-ce qu'on peut parler de l'animation un petit peu ? Enfin, tu es un peu calé dessus ou est-ce que...
Ah bah, l'animation de...
Parce que ça, c'est un truc qui me tient assez à cœur.
De Vampire. Ah bah, si tu veux, toi l'illustrer, mais juste dire qu'on est déjà à trois fois sur certains personnages que proposait Street 2 sur certains coups. Donc, on est largement au-dessus de ce qui se faisait à l'époque.
Alors, en fait, j'avais lu donc qu'il y a un article sur Bagropoint qui traite notamment de l'animation et de l'apport de Darkstalkers dessus. Mais dans Darkstalkers, ce qui a surtout choqué à l'époque en fait et qui a marqué une bonne génération d'animateurs hein, parce qu'il y a beaucoup d'animateurs aujourd'hui qui bossent sur de la 2D, du jeu de combat, etc., qui à l'époque ont vu Darkstalker et sont vraiment restés sur le cul. C'est que on sait pas si officiellement ils l'ont vu comme ça, mais Darkstalkers reprend les éléments en fait qui composent une bonne animation telle qu'ils ont été définis par Disney. En fait, c'était les trois, je sais plus combien il y a eu d'animateurs clés chez Disney au début de la grande époque de Disney, mais ils ont écrit un livre en fait sur les 10 ou 12 principes de l'animation qui explique en fait que pour composer une bonne animation, il y a des règles très simples à suivre, des règles de compression et d'étirement, et notamment c'est pour ça qu'on a des personnages qui s'écrasent, qui se redressent, etc. On a aussi de l'anticipation, c'est-à-dire réussir à faire une belle pose de base de façon à ce que les coups partent très bien sans qu'il y ait un gros décalage, on va dire. Et il y a des tas d'autres règles, notamment le charisme, le réalisme physique ou alors le réalisme, enfin, ou l'anti-réalisme, justement, du moment qu'il y a de la cohérence pour les personnages. Et notamment, un truc qu'on retrouve aussi beaucoup dans Darkstalkers, c'est l'accélération. Je pense qu'on va faire le lien avec le gameplay, notamment là-dessus. C'est que dans Darkstalkers, une des choses qui change beaucoup de Street 2, c'est que les étapes d'animation, en fait, avancent, enfin, accélèrent et ralentissent, notamment quand tu vois les personnages marcher ou bouger. Il y a parfois, ils ont tout simplement rajouté des étapes de façon à ce qu'un coup aille plus doucement, et puis que tout d'un coup, il se termine beaucoup plus vite, en fait. Ce qu'il n'y avait pas trop dans Street 2, où finalement, si tu regardes un bon vieux Street 2, le coup va à un rythme,
assez
finalement,
constant
quoi. Il s'affiche, il tourne vraiment comme une aiguille. C'est vraiment très, très clean, alors que dans Darkstalkers, ça change vraiment la donne. Donc, je pense qu'on peut faire le lien avec le gameplay, notamment, parce qu'une des plus grosses différences, c'est que ça va déjà un peu beaucoup plus vite, quoi, à l'époque.
Alors le jeu de base propose en fait, comme dans 2X, en fait plusieurs niveaux de turbo. Donc on garde cette possibilité en fait de jouer à la vitesse un petit peu de Street 2 Dash, mais on peut aller beaucoup plus vite, et quand on passe en niveau 3, le jeu va très vite, déjà sur le premier épisode. En termes de gameplay, c'est l'arrivée chez Capcom en fait de la garde universelle en l'air. Donc les personnages sont capables en fait de se protéger au sol comme en l'air. À la différence près, c'est que la garde en l'air de chez Capcom vous laisse perméable en fait aux coups qui démarrent du sol. Donc par exemple, vous pouvez pas garder un dragon ou genre de choses qui permet en fait une protection avancée du personnage. Mais comme le jeu est clairement offensif, on est vraiment dans l'idée en fait que tout va vers l'attaque. Et comme tout va vers l'attaque, on rajoute de la défense pour pouvoir justement gérer ce type de situation. C'est très intéressant du coup.
Oui, pour le coup, c'est surtout, en effet, vu que le jeu est extrêmement porté sur l'attaque, on a donné beaucoup plus d'options pour la mobilité, vraiment accélérer la mobilité. Quand on voit un 2X où, en fait, on n'a pas de dash, tout simplement.
Ouais, on n'a pas de dash dans 2X. C'est vrai que ça fait bizarre de se dire comme ça, mais même dans Street Fighter Alpha, on peut pas dasher, en fait.
Non, non. On reviendra là-dessus,
mais c'est vrai que là, tout d'un coup, tu peux courir vers l'avant, courir vers l'arrière.
C'est même pas un dash, ouais. c'est ni des dash, ni des runs, etc. C'est caractère spécifique. Par exemple, tu prends Dimitri disparaît, ce qui lui permet en fait d'être imperméable à certains coups en fait quand il se déplace rapidement.
D'accord. Morrigan, on vous disait, elle vole, autrement dit, elle monte entre guillemets avec un angle ascendant, ce qui fait qu'elle se retrouve en l'air directement. Elle peut faire des coups hauts en fait, juste en avançant vers l'avant.
Des coups sautés. Un dash.
Voilà. Il y a quoi d'autre
comme... d'ailleurs.
Oui.
Voilà. Il y a quoi d'autre comme dash
Ça se quoi, tu fais un petit bond en avant, tout comme Gallon.
Anacharis, il a vraiment un run.
Non, il s'arrête quand même. Hein.
Il vole, normalement, je crois qu'il ne s'arrête pas. Tu peux garder...
Ça, c'est quand tu le mets en mode fly, mais sinon...
En effet.
C'est ça.
Sinon au sol, ils s'arrêtent tous au bout d'un moment. Tu ne peux pas les laisser courir à l'infini. On ne peut pas voler
à l'infini.
Autre chose,
au niveau de la mobilité, quand même,
ouais.
Parce qu'on a pas...
Revenons à ça, oui, un petit peu.
C'est qu'on peut, on peut s'accroupir,
ouais,
et avancer.
Dans le premier Vampire, on pouvait faire,
oui,
ça. C'était Fatal Fury, c'est ça,
ouais.
Fatal Fury spécial qui pouvait faire ça aussi.
Voilà, donc ça aussi, c'est. On voit clairement que tout est fait pour. On voit clairement que tout est fait pour te permettre d'avancer et pas de rester sur place un peu bloqué, entre guillemets, on va dire un peu engoncé, comme dans Street Fighter.
Dans Street Fighter, où deux personnages en fait essaient de se toucher dans une distance plus ou moins grande, là on essaie de casser cette règle-là en fait. C'est,
ouais,
ça le but.
Autant 2X, autant Street Fighter est vraiment, on va dire, axé là sur la gestion de ta zone à fond. Autant sur Vampire, on va être beaucoup plus sur du je vais te briser la garde.
D'accord.
Voilà, garde haute, garde basse, dans le dos, voilà. Donc, en effet, pour toute cette partie où on se rend compte que le jeu est beaucoup plus mobile, donc comme on a parlé un petit peu de ces enchaînements, en fait, les chain combos. Mm-hmm. Donc, si je ne dis pas de bêtises, c'est vraiment l'introduction de cette mécanique.
En fait, non, ils appellent ça les cancel combos, et le chain combo est arrivé en fait dans le deuxième épisode.
D'accord.
C'était quoi le principe en fait?
Le cancel combo, en fait, te permet en fait de casser en fait un coup normal par un autre. Et là encore, alors je ne sais pas comment il faut le dire, est-ce que c'est caractère spécifique ou pas,
les personnages
ne peuvent pas le faire, et en fait, ils ne peuvent pas tous le faire avec n'importe quel coup.
D'accord, ok.
En fait, selon les personnages, on va pouvoir, par exemple, casser un coup fait par un coup moyen, et chez un autre personnage, si tu essayes de le faire, ça ne marchera pas. Ce qui va se passer, c'est que tu pourras casser un coup fait par un coup fort.
Donc, d'accord.
Voilà, c'est une mécanique à laquelle tout le monde a accès, mais après, derrière, pour l'utiliser, il va falloir trouver ses subtilités pour, en gros, comme d'habitude, pour optimiser... Cette technique.
D'accord. Mais alors, ça a quoi pour effet, en fait? Pourquoi tout d'un coup, on passe à des combos de combo link ou de combos avec des super cancels à tout d'un coup, juste un enchaînement de boutons comme ça? C'est quoi la logique derrière? Pourquoi on facilite ça comme
c'est
ça?
C'est pas tout à fait ça, parce qu'en fait, dans ce jeu-là, en fait, il y a aussi des links. C'est vraiment là, grosso modo, c'est surtout la partie offensive, en fait, qui est mise en avant. On essaye de simplifier, effectivement, toute cette partie-là. Mais pour autant, les manips de vampires sont pas ultra simplifiées. Il faut faire les manips. Il n'y a pas de raccourci, par exemple, dans le premier. Puis il y a certaines manips qui sont pas très logiques. La boule de feu, par exemple, de Morrigan en l'air, elle part d'en haut. Il faut descendre sur un quart de cercle vers l'adversaire. Enfin, les manips sont un peu bizarres quand même dans le premier.
D'accord.
Enfin, oui.
De toutes les manières, l'envie du jeu, elle est extrêmement simple. C'est de passer d'un jeu de footsies et de zoning comme Street Fighter à un jeu porté vers l'agressivité.
Ou au final, c'est pas le combo qui importe, mais c'est l'ouverture de la garde et le combo ensuite, c'est juste
le
pour
combo,
faire des dégâts.
Le combo, c'est un moyen un peu flashy, effectivement, de faire plus de coups qu'un Street Fighter où tu vas faire un 3 hit combo, tu vas être content. Là, le jeu, il est quand même vachement plus mobile, il est vachement plus porté vers l'attaque. Du coup, derrière, tu fais tes combos, pif paf, c'est visuel, c'est fun, c'est rapide. Et finalement, c'est un rythme totalement, en fait, complètement opposé à Street Fighter.
D'accord.
Ce qui était aussi l'idée de base, de toute façon, comme on dit tout à l'heure.
Ouais, clairement, là-dessus, on n'est vraiment plus dans la même dynamique et même se dire, voilà, ce qui va être fun pour le joueur dans ce jeu, c'est d'ouvrir la garde.
D'accord.
Voilà, c'est d'ouvrir la garde. Donc, une fois que tu as ouvert la garde, ce que tu vas lui mettre, en fait, dans sa barre, n'est, comment dire, ça ne va pas changer ton rune tout de suite. On n'est pas dans 2X où tu as mis 3 light, une super, et ton rune est quasiment terminé.
Ouais, d'accord.
Voilà. On te met beaucoup plus de phases où tu vas pouvoir en fait te remettre en situation neutre et essayer de rouvrir la garde. Ou même des fois dans le premier Vampire et après surtout dans les suivants, où une fois que tu as mis le mec par terre, tu essayes de faire des setups pour pouvoir lui rouvrir la garde dès qu'il se relève.
Donc c'est un peu le prémisse des jeux à setup, si on pouvait dire comme ça, où en gros, c'est pas tant la réponse qu'apporte l'adversaire que ce que toi tu prépares en amont de lui finalement quoi. C'est le jeu où tu commences à avoir une longueur d'avance sur ce que l'autre va faire, alors que la plupart dans d'autres jeux, même si tu avais toujours une idée de longueur d'avance, tu répondais quand même beaucoup à la distance, au fait que tu étais l'un en face de l'autre, etc., etc.
Je sais pas si on peut parler de plus de longueur d'avance, je pense qu'on peut surtout parler de rythme accéléré en fait.
D'accord.
Oui.
C'est juste beaucoup plus rapide dans l'analyse.
D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres points de gameplay qu'on pourrait aborder qui vont dans ce sens aussi
Alors on a une barre de super comme dans 2X qui fonctionne pour le coup pas du tout pareil.
D'accord. Okay.
Elle se remplit d'une façon assez similaire, mais une fois qu'elle est pleine, ça ressemble un petit peu plus à ce qu'on va voir chez la concurrence chez SNK, c'est-à-dire que c'est une barre qui va se vider au fur et à mesure. Il faut utiliser son coup tout de suite, mais il n'y a pas de coup particulier à faire. C'est-à-dire qu'en fait ça produit une sorte de coup EX un petit peu. Donc une grosse boule de feu, si jamais on part d'une boule de feu normale, il n'y a pas le choix de ne pas la sortir ou pas. Dès qu'on fait un coup, le coup part. Et donc si on fait un dragon, ce sera un super dragon au lieu de... Mais il y a des coups qui, là encore, sont liés au personnage que vous ne pouvez faire que quand votre barre est pleine.
D'accord, ok.
Donc pour le coup, en fait, on arrive à une version de soi-même plus forte. Et pour certains personnages, on va débloquer des nouveaux coups. Voilà, il n'y a pas de notion de vraiment de super... attaque, d'une super que tu vas balancer comme Ryu ou Ken qui balance.
Il n'y a pas la caractérisation par le méga coup connu du personnage, il n'y a pas trop ça quoi.
Non, on n'a pas vraiment ça dans Vampire, et pour le coup c'est une des choses qui est un petit peu déroutante dans le jeu. On a une barre de super, on s'attend à balancer la purée à un moment.
Ouais.
Mais c'est pas cette optique là, c'est là où on voit que leur optique aussi, le jeu est très très japonais.
C'est-à-dire ?
Dans cette optique-là où on n'est pas dans le sens où on va complètement charger une barre et après tout lancer comme on peut, comme on a pu avoir avant dans 2X, où on voyait qu'il y avait déjà une ouverture vers le public un peu plus américain. Là, on revient à un truc. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment la base de notre jeu. Je vais trouver ta garde, je vais te faire des pressings.
D'ailleurs, il n'y a aucune animation particulière quand tu lances l'attaque. Hein. L'attaque est vraiment lancée comme si c'était un coup normal. Hein.
D'accord, ça change un peu de couleur, de choses comme ça.
Non, la taille n'est pas la même, certains personnages on change de teinte.
C'est juste des détails comme ça.
C'est vraiment des détails.
D'accord, ok, c'est étonnant.
Donc du coup, l'adversaire n'est pas aussi alerté sur ce qui va se passer. Là, il est obligé de voir que la barre est pleine et il sait que le prochain coup fera plus mal.
D'accord, ok. C'est à peu près tout ou est-ce qu'il y a encore autre chose ?
Ah bah si, il y a la gestion des projectiles qui est vachement intéressante, parce que quand deux personnages lancent un projectile, suivant le coup utilisé, le projectile sera ou repoussé ou on va transpercer le projectile. Par exemple, tu fais une boule de feu avec Dimitri avec le point fort contre une boule de feu de Morrigan avec le point faible, le point fort est plus fort que le point faible, le projectile en fait de Morrigan va être repoussé et elle va se bouffer le projectile de Dimitri, ce qui n'avait jamais été vu à l'époque.
Donc il y a une notion de force en fait, de résistance, on est dans les premières boules de feu qui ont une résistance en fait vis-à-vis d'autres boules de feu quoi.
Tout à fait, donc la gestion du coup en fait est importante, parce qu'effectivement certains coups faibles vont sortir plus rapidement, mais le coup fort par principe aura plus de puissance et va aller plus loin.
D'accord, ok, ça marche, c'est bon, c'est tout, c'est déjà pas mal hein, vous me direz.
Ouais,
mais...
après il y a plein de choses auxquelles on pourrait aller, mais par exemple certains personnages qui avaient des wall jumps,
Donc qui rebondissait sur les murs.
Voilà, voilà, de ce genre de technique. Mais après, là, on rentre vraiment dans du caractère spécifique.
Bah, est-ce qu'on a encore un petit peu de temps, on va dire, donc quel mode, quelle chose, caractère spécifique déjà dès le premier ressort. Est-ce qu'on a l'invention, parce que là tout à l'heure vous avez parlé assez rapidement du mode flight, donc de la façon de voler d'Anna Karis par exemple. C'est quelque chose que seul lui peut faire, mais ça consiste en quoi? Il s'envole et puis il reste en l'air et il fait rien d'autre.
Tu sautes avec, tu peux en fait jumper, puis pendant un temps, au lieu de faire une ellipse en fait quand tu sautes, tu restes en l'air et tu fais tous les coups sautés du perso.
Tu peux rester faire tous les coups sautés du perso.
Ouais, pas indéfiniment.
Ouais, bien sûr.
Le flight mode est limité dans le temps. C'est une mécanique qu'on retrouvera d'ailleurs également dans X-Men avec Sentinel par exemple, et ensuite qu'on retrouvera dans les Marvel,
tous les Marvel, ouais.
Avec une grosse partie du cast. Mais ça, effectivement, c'est une grosse nouveauté, il me semble, à l'époque. Je pense que ça n'a pas été fait avant dans aucun jeu.
Et par contre, on a beaucoup parlé de l'attaque, mais il y a aussi, dans ce désir d'être beaucoup plus mobile, on a aussi des choses en défense, en fait. En gros, quand on tombe par terre, dans Darkstalker, on ne reste pas là à rien faire.
C'est-à-dire,
on a la possibilité, en gros, d'avoir une sorte de roll. Vraiment, au moment où on touche le sol,
On roule vers l'avant ou l'arrière, quelque chose comme ça.
Oui. En gros, c'est ça. Et selon la puissance du bouton sur lequel tu appuies au moment où tu touches le sol, ton roll va être plus ou moins grand.
D'accord. Ah, c'est marrant ça. Je savais pas qu'il y avait avec le bouton changé. Donc encore une fois, comme les boules, il y a la notion de, en fonction du bouton, on va changer, on va dire, un petit peu la forme de ce qu'on utilise. Quoi,
ce qui peut éviter de se prendre un dragon à la relevée, par exemple.
D'accord.
Okay. Une phase de pressing avec cross-up ambigu, tout ça. Oh, non, je vais rouler à telle distance. Ah bah là, j'avais guessing game, une chance sur deux ou sur trois.
D'accord.
C'est ça qui, en plus, qui est super intéressant, c'est la personne qui va te remettre un pressing derrière se dit, t'as mis dans le coin. Tu vas faire ton roll, je fais mon saut en arrière, je refais un coup qui va te taper en garde inversée pendant que tu roules vers la... Enfin voilà.
Ouais, déjà en fait, dès le premier, c'est déjà le sacré bordel en un sens.
On a un panel de fourberies hallucinant.
Dès le premier, quoi.
Ah oui, là-dessus, on est déjà bien, on a déjà tout ce qu'il faut. Et en plus de ça, on a évidemment le throw escape.
Le throw escape, alors explique.
Le throw escape qui en effet est différent du take hit qu'on a dans 2X.
Alors, 2X. En français.
Alors, dans 2X, tout simplement, quand tu te fais attraper, tu peux, en fait, te remettre sur les pieds avant de tomber, mais tu vas subir des dommages.
Oui.
D'accord ? Tu vas avoir la moitié des dommages qu'une chop ferait.
Ouais.
Sachant que si tu meurs avec les dommages totaux de la chop, tu ne peux pas l'éviter.
D'accord.
Oui.
C'est la grosse limitation du système.
D'accord.
Parce que très frustrant,
parfois.
Le jeu
est violent. Donc, dans Darkstalker, par contre... Tu peux contrer directement la chope au moment où on t'attrape.
Mm-hmm.
Tu vas repousser ton adversaire et tu n'auras pas de dommages.
D'accord.
Et pour ceux qui sont un peu plus dans la détente, on a toujours ce rétablissement...
Qui existe
après une chope.
D'accord. Donc en fait, tu as le choix d'avoir les deux. Tu peux, t'as deux chances en fait de réduire les dégâts d'une chope qu'on va te faire. Quoi.
Exactement.
Littéralement. Soit l'annuler complètement, soit finalement les réduire à la 2X. Quoi.
Est-ce que c'était la première des chopes dans les jeux de baston ou pas? Enfin, des chopes en fait. Anticipative.
Ah, ça c'est dur.
C'est une colle.
Je crois que c'est Warny Rose le premier, il me semble.
C'est peut-être Warny Rose, ouais. Je sais pas. Ah, c'est une bonne question, ça sera à vérifier, ouais.
On va vérifier plus tard.
Il faudrait voir vraiment l'ordre de sortie des jeux.
C'est une année qui est compliquée un peu. Ouais.
Le 26 avril, Warny Rose de Jet, il y avait déjà ça dedans, et donc il est sorti en juillet, donc Darkstalker est sorti après.
Mais il y avait avant Warny Rose qui a fait ça?
Ah, je crois.
C'est ça le problème.
Parce que là, on est en train de parler de fenêtres de 3 mois d'un jeu à l'autre. C'est
3
un peu
mois, 2 semaines, bon.
C'est ça, ouais. D'accord. Et on parlait tout à l'heure en défense. Il y a aussi. Est-ce que c'était dans celui-là aussi qu'il y avait le guard cancel dès le...
Oui, on en parlait tout à l'heure.
On en parlait tout à l'heure,
donc,
c'est ça.
Le guard cancel, en fait, qui permet, en fait, tout simplement, suivant le personnage que vous avez, en fait, d'exécuter un ou plusieurs. Il y en a plusieurs qui ont la possibilité, en fait, de le faire.
Ouais.
D'exécuter un guard cancel, en fait, enfin, un coup spécial dans une fenêtre qui est relativement faible. Donc, il faut quand même bien gérer son truc. On vous passez par l'étape neutre, en fait, neutre quand vous prenez le coup. Le personnage est toujours
en garde,
tout à fait. Et donc, vous faites votre coup spécial. Et là, ça casse la garde, en fait.
Donc, c'est une annulation en fait de garde, c'est un contre à partir de la garde qui a une manip très précise.
Voilà, c'est un garde cancel basé sur un coup spécial du personnage.
Souvent le dragon.
Qui ne coûte rien, mais qui non plus est pas non plus abusé parce que Si, par exemple, l'adversaire en face s'arrange pour arrêter son pressing au moment où tu effectues ta manip de guard crush, bah là, tu te retrouves à faire le coup dans le vide et hop, whiff, punish, et là, c'est la foire à la saucisse.
Donc, c'est comme en, ouais, elle disait tout à l'heure, c'est encore une fois une fourberie de plus dans le jeu, etc.
Ah, complètement,
etc.
Mais voilà, c'était.
Sur le main game.
Ouais.
C'est là qu'en fait, on voit qu'effectivement, le jeu est beaucoup plus. Je vais dire plus profond, mais je vais pas me faire des amis chez 2X, mais il y a plus d'options en fait. Il y a plus de profondeur de jeu, si t'es stricto sensu.
D'accord.
Il y a plus de possibilités, donc plus de profondeur. On a aussi la possibilité de rater une chope. Chope dans le vide.
Tu peux choper dans le vide.
Ouais. Ouais.
D'accord, je me souvenais pas de ça. D'accord.
Voilà. Avec les chopes spéciales ou avec les chopes normales?
Je crois que c'était avec. Je sais pas. Je vais pas te mentir. Je crois
que c'est les chopes spéciales parce que les chopes normales, c'est toujours un coup fort ou un coup moyen pour certains persos
près
du perso dans une fenêtre. Mais ouais, t'as des chopes spéciales effectivement, notamment chez Sasquatch où ils chopent dans le vide. Ouais.
Comme Zangief en fait.
Finalement, comme Zangief.
Ouais, tout à fait.
D'accord. Bon, est-ce qu'on a fait le tour du premier? Est-ce qu'on peut passer au deuxième épisode?
Alors, le tour, non, bien évidemment, mais oui, on va passer au deuxième.
D'accord. Allons-y alors. Donc le deuxième, c'est quand? C'est quelle année? 95?
Alors, le deuxième est sorti en 95 exactement, et pour être exact, il est sorti en mars 95. Le jeu en fait propose en fait beaucoup de nouveautés. On va en parler dans un court instant. Il amène surtout deux nouveaux personnages et la possibilité de jouer avec les boss dont on n'a pas parlé exprès pour le premier pour pouvoir garder ça sous l'arrêt
ensuite,
sous le coude. C'est surtout en termes de gameplay et on va en parler tout de suite, l'arrivée de ce qu'on appelle les chaînes combos, et ça va complètement changer le jeu.
D'accord. Juste pour ceux qui sont pas trop gameplay, mais un petit peu histoire background aussi, il y a quand même une évolution en termes de scénario, des personnages,
absolument,
etc.
Pas.
Parce que non,
il n'y a rien du tout.
C'est
vraiment. En fait, il y a certaines personnes qui parlent de Vampire 1.5 en fait.
Quand ils parlent du deuxième épisode.
Grosso modo, en fait, les deux nouveaux personnages ont leur propre scénario.
Ouais.
Là, le jeu s'appelle Vampire Hunter au Japon. On met l'accent en fait sur le personnage de Donovan dont on va parler, qui est donc le chasseur de vampires. Donc là on change de héros, mais tous les autres personnages, on garde les mêmes endings. Il y a pas d'évolution du scénario.
D'accord. Donc en gros, le premier c'était la présentation des créatures, on va dire. Dans le deuxième, on a entre guillemets un début de scénarisation parce qu'on a un personnage avec un but qui est de chasser des créatures, en tout cas avant le vampire, donc probablement Dimitri, je suppose.
Tout à fait.
Et Donovan, il est pas lui-même à moitié vampire ou comme ça. Donc c'est en plus une espèce de quête de rédemption.
Spoiler.
Ah bah écoute.
Le spoiler de fou que t'apprends que plus tard normalement.
Ah bon? Ah bah je savais pas moi.
Tout de suite dès que tu vois le personnage.
Je pense que 95 il y a prescription.
Ouais, un petit peu quand même.
Ouais, 17 ans plus tard, je pense qu'on peut aborder le sujet.
On peut aborder le sujet du vampirisme de Donovan. Merci Valentin. Ouais. Et c'était quel autre, avant de parler du gameplay, donc c'était Donovan, on a dit, c'est un. Donc tu nous le décris un petit peu, Donovan, il est comment comme personnage?
Alors, Donovan, c'est un personnage qui est présenté habillé un petit peu chelou avec une énorme épée en fait qui utilise des incantations et ses propres pouvoirs de vampire pour se battre. Et il est accompagné d'Anita qui est un sprite qui va se balader, une petite fille qui va se balader à ses côtés constamment, qui n'a pas d'action directe sur le gameplay, mais ça crée vraiment une ambiance particulière. Lui, alors au début on sait pas trop pourquoi elle est là, mais grosso modo en fait on apprend que même si il se présente comme un personnage qui s'est complètement dédié à la chasse aux vampires, il a quand même un cœur, et donc il décide de prendre sous son aile une petite fille qui est peut-être pas juste une petite fille, mais ça on le verra après.
D'accord. Et l'autre personnage, c'est lequel?
Lei-Lei, qu'on a sous le nom de Shenko chez nous, en fait, qui est un fantôme chinois, tout simplement, et qui se sert des pouvoirs de sa sœur, qui est également décédée, en fait, pour ses pouvoirs.
Il n'y a pas un délire du genre, en fait, c'est la sœur décédée qui est enfermée dans un bout de papier qui dirige le corps de la seconde frangine, qui elle est vraiment morte, un truc dans le genre. C'est super glauque en fait.
C'est un peu un truc dans le genre.
Bah, c'est le principe du fantôme.
Tu prends un chinois, c'est ça.
Avec le talisman pour les ressusciter.
Que tu mets sur le front,
exactement,
etc.
Ouais.
C'est ça. Et on n'avait pas. Tu voulais parler des boss. Est-ce que tu veux en parler maintenant en tant que personnage, ou est-ce qu'on en parle un peu plus tard? Parce qu'il y en a quand même.
On peut enchaîner les deux. On peut enchaîner. Il y a le boss, enfin le demi-boss. En fait, parce que dans le premier, donc il y a que deux personnages non jouables. Je suis en train de chercher son nom japonais, du coup. C'est
Lequel?
L'espèce de robot.
Phobos. Phobos.
Ça, c'est Phobos. J'étais sur le nom américain. Phobos, qui donc lui-même a un fly, d'ailleurs, également, qui est un personnage en fait qui utilise des missiles, qui, enfin, il est super chiant en fait à approcher.
Phobos. D'ailleurs, Phobos, lui aussi, il est accompagné. Enfin, à la base, il a été réveillé par un petit garçon, ouais, je crois, dans l'histoire. Tout à fait. Donc lui aussi, voilà, il y a la petite fille, le petit garçon, voilà, un petit côté moé, tout ça, bon bref.
D'accord.
Et Phobos, c'est l'ancienne civilisation hyper avancée technologiquement, blablabla, je sais plus trop quoi. C'est le...
En fait, oui, ce qui ressemble à une espèce d'amphore ou à une espèce de sculpture en terre cuite, ouais, presque, alors qu'en fait, il est hyper technologique, quoi. Ouais, c'est un robot caché dans de la terre cuite, quoi.
Ah, c'est très Maya, quoi.
Ouais, un petit peu.
Où
ouais.
Ils ont accès à de la technologie, enfin, soi-disant,
les Mayas, ils ont de la technologie.
Ouais, c'est un peu le délire Atlantide, Maya, tout ça. Voilà.
D'accord, ok.
Peuple de Mu.
C'est de là que ça vient, d'accord. Et l'autre boss ?
Et l'autre boss,
on a du mal avec les noms.
C'est comme les vers en Pyrex, mais sauf que
voilà,
c'est
Pyro. Voilà,
c'est
Pyro, merci, exactement. Je suis en train de... Mais en plus, c'est le seul qui ne change pas de nom. Plus
c'est
pour
Pyros,
le coup,
non ? Pyro ?
Pyron.
Piron, ouais. D'accord. Et c'est quoi?
Piron, t'es les trucs. Non, pardon, excusez-moi.
qui est donc pour le coup en fait le personnage le plus animé entre guillemets parce qu'en fait c'est une sorte de l'avant-fusion en fait qui prend plus ou moins forme humaine.
Il est magnifique.
Et donc il change de coup tout le temps en fait. C'est des choses qu'on a revues avec 12 par exemple après, mais c'est là pour le coup c'est chacun de ses coups, il y a des coups, ça ressemble à une vague, d'autres c'est une roue qui avance,
Et son histoire c'est quoi? C'est une espèce de dieu alien descendu sur Terre?
Alors en fait oui, c'est une espèce de divinité extraterrestre en fait qui décide de supprimer les planètes les unes après les autres, hein. Finalement c'est un peu...
C'est un hobby comme un autre.
Oui voilà.
C'est Galactus.
C'est Galactus mais ni plus ni moins de toute façon.
C'est marrant parce qu'en fait au niveau des coups spéciaux, tu disais, ils se transforment en roues, mais aussi en piliers de feu, trucs comme ça. Et c'est aussi des descriptions qu'il y avait en fait des apparitions de dieux vengeurs, autre chose comme ça, dans pas mal de religions en fait. Donc ils jouent la carte à mort en fait de l'être supérieur qui joue avec les peurs humaines, même dans ses coups et sa move list en fait.
Et
finalement,
comme les êtres humains ne sont pas capables d'arrêter un être comme ça, bah c'est les Darkstalkers qui vont s'en occuper.
C'est
donc
une description très beaux-arts que tu nous as fait.
Ah, exactement. Je suis désolé. Bref. Donc voilà. Donc ce sont les nouveaux personnages de ce deuxième épisode ou ce 1.5 épisode.
Mais c'était pas jouable dans le 1 du coup.
Non.
Mais là du coup ils sont jouables.
Et là ils sont jouables.
Voilà. Ils sont jouables. D'accord. Ils sont pas pétés.
C'est gratuit, deux persos. Voilà. Hop.
Alors sachant que dans le premier épisode ils sont super chauds à battre vraiment, alors que dans le 1.5 entre guillemets dans le deuxième épisode ils ont fait un truc intelligent qui est que les personnages un petit peu à la star de Street Fighter 2 Dash, les boss sont moins forts. Qui ne l'était auparavant pour en faire des personnages entre guillemets comme les autres.
D'accord. Alors, tu disais tout à l'heure que c'était surtout une évolution de gameplay, ouais. Ce deuxième épisode. Alors, allons-y. Tu voulais parler des chain combos. Alors, peux-tu m'expliquer la différence entre... On avait les cancel combos et même maintenant, on a les chain combos. Alors, c'est quoi la différence entre les deux?
Alors... La différence vraiment là entre les cancels et les chain combos, c'est qu'on va avoir une, entre guillemets, une vraie logique dans l'enchaînement des coups. On va avoir une sorte de combo presque prédéfini. Où en fait, par exemple, on va pouvoir enchaîner petit, moyen, gros.
En gros, tu peux cancel n'importe quel normal par un normal plus puissant.
D'accord.
Ou équivalent.
Ou équivalent. Donc en gros, tu peux faire point faible, pied faible, pied moyen.
Point moyen, pied moyen, fort. Tu
voilà.
vois.
D'accord.
Bon, après, tu seras à l'autre bout de l'écran.
Tu seras à l'autre bout de l'écran.
Tu auras juste fait la moitié de la move list, mais tu peux.
Alors, d'accord. Oui, la limitation, en effet, de faire cet enchaînement en serpent, comme on dit, en gros, c'est que potentiellement, tu peux repousser trop l'adversaire, surtout s'il est en garde.
Il y a une force de répulsion, effectivement, voilà. De base qui opère, qui fait que normalement, on va s'en tenir en général à
une
petit,
série de 3.
Petit, moyen, gros. Non, plutôt, on peut faire 4 souvent.
D'accord, 4 aussi.
4.
Tu as des personnages qui sont comme Felicia, qui sont mieux armés que d'autres pour.
D'accord,
exactement. Après, tu en as d'autres voilà, où tu vas faire petit, moyen, moyen.
D'accord.
Ouais. Mais vraiment, ouais. L'idée, c'est que. Au bout d'un moment, avec ça et d'autres mécaniques qui vont être ajoutées au fur et à mesure dans la licence, c'est tu whiffes, tu te fais agresser tout de suite et tu manges un combo. Whiffer, donc tu mets un coup dans le vent.
Ouais.
Voilà, donc pendant ton pressing, tu fais 1, 2, 3, 4 et tu as fait 5. Le 5 passe dans le vent, donc c'est forcément un coup fort, donc avec un temps de récupération beaucoup plus grand, mm-hmm. bah derrière tu te fais punir avec tout un combo parce que tu l'as mis dans le vide.
D'accord. Alors il faut bien préciser que ces cancels ne fonctionnent que en hit ou dans la garde, ils fonctionnent pas dans le vide.
Dans le vide on peut pas les faire.
Non.
Oui. Et quand tu dis punition, et je précise quand même, mais est-ce qu'on peut enchaîner les coups spéciaux avec dans un chain combo, c'est-à-dire si non. on fait faible, moyen, fort et boule.
Non, alors non, tu ne peux pas faire de super cancel depuis un chain combo. Par contre, après il y a des cas de link, mais bon ça va être plus tard où ouais. tu arrêtes ton chain combo, tu link un coup normal derrière, après tu fais ton cancel. Mais c'est vraiment des trucs très spécifiques de
très,
gameplay.
Très spécifique.
Un chain combo n'est pas cancelable par un super.
Mais alors là, j'ai une question toute bête, mais la plupart du temps les coups spéciaux quand tu les utilises, c'est souvent après un coup normal ou après une série de coups. Et tout d'un coup, là, tu te retrouves, c'est cool, tu peux enchaîner les normaux super facilement, mais tu ne peux pas enchaîner les spéciaux.
Pas à cette époque. On est, même si on repart sur 2X, c'est la même logique. Tu ne peux pas faire, par exemple, trois petits coups de pied.
Officiellement, voilà, dans le game system de 2X, au-delà de Delight, tu ne peux pas canceller normalement.
D'accord. Donc ça, c'est une réaction de jeune con qui se dit, mais pourquoi je ne peux pas enchaîner mes trucs comme ça? Parce qu'à l'époque, ça ne se faisait tout simplement pas.
Ça n'a pas été pensé pour, en fait. Enfin, il n'y a pas eu la mécanique implémentée, parce qu'ils sont pas... Ils n'avaient pas assez de recul à l'époque pour avoir ce genre d'idée.
D'accord.
Il y a soit ça, soit potentiellement, ça pouvait être des contraintes techniques aussi de l'époque, dans toute leur zone en fait de mémoire des inputs, le fait de dire celui-là il a bien été cassé par celui-là et qui a bien été cassé ensuite par celui-là, ça ils pouvaient peut-être pas savoir le faire à l'époque pour
d'accord, pour... peut-être pas en faire des caisses non plus,
voilà,
au niveau de
voilà, pour avoir fait un jeu sur quelque chose avec très peu de mémoire, bah ouais. on n'avait pas pu faire de chain comme ça. Bah parce que
le jeu ne se souvient pas en fait, parce que t'as pas assez de mémoire, il peut pas se souvenir du combo que t'as fait avant.
La machine te dit qu'est-ce qui se passe.
C'est génial comme truc.
Donc, c'était un jeu de baston qu'il a tenté de développer sur Nokia 3310, ouais.
C'est vrai en plus.
D'accord, donc les chain combos qu'on retrouvera après dans de nombreux jeux, finalement, encore une fois, une marque de fabrique inventée par Capcom qui sera reprise dans énormément de titres finalement.
Oui,
quoi.
Donc, oui là on est au début de quelque chose de nouveau et toujours au chapitre des nouveautés dans le jeu et toujours de manière offensive, on a ce qu'on appelle la poursuite. Quand un personnage est au sol, avant on était protégé, on se disait on peut plus se faire taper. Là le personnage peut sauter dessus même s'il est à l'autre bout de l'écran pour continuer et rajouter un hit, voire plusieurs si le coup est fait, on y reviendra dessus en Yes, qui est donc une version upgradée.
Ça ressemble un petit peu finalement à ce qu'il y a dans Virtua Fighter où tu peux mettre un petit coup en fait quand le mec est au sol, mais juste un petit coup quoi.
Mais c'est complètement voilà. basé là-dessus
Au plus bouton d'attaque et là tu traques automatiquement l'adversaire et hop tu piétines, tu marches dessus.
C'est vrai que les animations
c'est mon paillasson.
Souvent genre Dimitri il est là, il fout les deux pieds,
même petit coup de talon. Gallon il met un coup d'épaule. Félicia elle est même un petit peu différent puisqu'elle met un coup de patte au sol.
Ouais.
Elle a cette particularité-là, et ainsi de suite.
D'accord, ok.
C'est le coup qui tue, alors il est au sol, il a quasiment plus de vie.
Tu le lances.
Ah, bim.
Sauf si d'où le gros intérêt, voilà, d'où l'intérêt toujours du rôle qui est toujours là, qui permet donc de se relever.
Mais après, il y a des setups plus ou moins garantis, il me semble, malgré les rôles, mais la rôle permet justement effectivement d'éviter ça en restant pas moins longtemps au sol.
D'accord. Oui.
Et si je ne dis pas de bêtises, il y a même deux niveaux. En fait, de puissance pour écraser le mec.
Oui.
C'est
avec les IS justement dont on va parler dans un court instant. On peut même le dire maintenant. D'ailleurs, on peut enchaîner sur la grosse nouveauté du coup des coups. On a donc le coup en IS et le coup en IX. Alors attention, parce que
peut-être qu'on peut préciser d'abord que c'est dû aussi en partie au changement de barre. Maintenant, on a plusieurs. En fait, on a toujours sa barre de super qui se remplit toujours. Sauf qu'on peut stocker plusieurs niveaux de barre.
Mais jusqu'à trois niveaux.
Dans le deuxième, pardon, dans le 1.5, on va dire. Et on peut utiliser ensuite ces trois niveaux pour faire donc des coups en ES.
D'accord. Et les coups en ES, c'est quoi? Parce que là, il va
économique et non, pardon.
c'est là les titres sont un peu bâtards parce que de manière générique, on les aurait appelés IX parce que c'est comme ça qu'on appelle
un coup spécial amélioré par rapport à sa version normale. On appelle ça un coup X aujourd'hui.
Voilà.
Et à l'époque, c'était un coup ES.
Mais ce qui est beaucoup plus logique en fait de l'appeler ES, c'est Enhanced Special. spéciaux améliorés.
D'accord.
c'est eux qui ont le port salut. En fait.
Voilà, c'est pas une version X d'un coup voilà, différente, c'est une version améliorée.
Et X, ça veut dire quoi du coup ?
Extra.
Extra. Mais au final, les EX c'était des coups extra en plus dans Vampire Hunter, il me semble, non ? Qui étaient des coups spéciaux que tu pouvais faire qu'avec de la super. Donc les EX c'était des spéciaux améliorés, voilà.
Oui, d'accord. C'est ça. Pareil, il n'y a pas de super Fury à proprement parler.
D'accord, pas encore quoi. C'est pas.
Non, c'est pas. Enfin voilà, c'est vraiment. C'est pas la Fury de Marvel ou de 2X où tu vois un gros éclair avec le visage du mec et trois quarts de barre en moins au bout de deux secondes. Là, c'est vraiment, t'as accès à des coups en plus.
D'accord.
Et t'as des extras qui sont quand même assez chauds en manip et assez chauds à placer. Il y a des personnages qui sont moins avantagés que d'autres, on va dire.
D'accord. Et globalement, en fait, les coups ES, donc, avaient changé de propriété ou juste ils faisaient plus de dégâts genre,
Plus de dégâts, ils avaient une meilleure portée, ils prenaient plus de place sur l'écran. Enfin, c'est comme dans le premier, ça. Hein. C'est
ouais,
le coup
ça
spécial.
Change pas.
Il a quelques différences cosmétiques et derrière, il fait plus mal, il fait plus de hits, il prend plus de place. C'est tout. Hein, c'est...
Bah, grosso modo, dans le premier, on avait une barre où tous les coups qui utilisaient le coup spécial étaient intégrés à l'intérieur, que ce soit des coups plus importants ou les coups spécifiques. Dans le deuxième, dans le 1.5, ils ont séparé ces deux éléments-là. Les IS, ce sont des IS, c'est des coups que tu fais avec deux boutons, alors que les extras sont vraiment des coups que
les
tu fais
spécifiques.
Avec... Tout à fait, exactement.
Voilà, tu fais de l'IS, tu fais ton dragon, bah, tu vas choisir dans ton combo, hein. Tu te dis, ah, j'ai de la barre, puis je vais appuyer sur deux boutons au lieu d'un quand je fais mon Dragon Punch en finish avec mon Regan, il va faire en ES. Du coup, elle va partir sur une diagonale beaucoup plus importante, avec clignoter en bleu, elle va faire plus de dommages, et voilà, c'est le Brésil. Tandis que l'extra, voilà, c'est comme une Fury dans 2X, c'est-à-dire c'est un coup bien spécifique qui n'existera pas en version sans barre et qui sert uniquement à claquer sa barre et qui, pareil, a des effets spéciaux. Enfin, c'est des coups un peu plus spécifiques, quoi, comme il dit.
Exactement. D'accord, ok. Est-ce qu'il y a autre chose de nouveau
dans Oui.
Quoi donc ?
J'allais parler de sûrement pas de la même chose, c'est vraiment revenir sur la jauge de super.
Ouais.
Aussi, la grosse différence, c'est qu'ils ont fait un grand pas en arrière sur la gestion de la super. Elle ne se draine plus avec le temps.
Ah oui, pouvoir... elle se stocke à l'infini. Quoi.
Oui,
voilà.
elle se stocke,
elle se garde. Donc, c'est plus la même approche. C'est une approche là plus stratégique.
D'accord, ouais.
Voilà, c'est un peu plus
stratégique. Finalement, c'est pas plus mal. Hein,
Oui et non.
Ça dépend des goûts. Bah, en fait, ils ont donné tellement d'options offensives que mettre cette épée de Damoclès sur le joueur qui dit si tu l'utilises pas tout de suite, tu l'as plus. Ouais.
C'est finalement plus. Limiter le jeu. Parce qu'il y a trop de trucs,
non ? Ça
ne
sert plus au bout d'un...
Je ne sais pas si on peut dire limité, mais...
Le parti pris est différent, quoi.
C'est une différence.
En fait, on le forçait. On le forçait, en un sens, on dit, utilise-le, sinon, de toute façon, ça va être gâché. Là, au lieu de faire ça, on lui dit, on t'en laisse plusieurs, et là, ça va être à toi de faire un peu de gestion.
On laisse le choix au joueur de gérer ses barres, hein. La gestion des barres, on y revient.
Et c'est vraiment ce côté... là-dessus, Vampire, c'est les prémices, des jeux un peu sandbox. On a la Marvel maintenant où
bac à sable, où en fait tu gères un peu comme tu veux, tu fais ton propre jeu,
tu les casses quand t'as envie, voilà.
Exactement. D'accord. Et là c'était le début. On te laisse le choix.
C'est sur quoi que tu allais revenir, Valentin, juste avant qu'on revienne.
Je pense que c'est Wael qui va en parler, parce que je vais pas monoposer la parole tout le temps.
Vas-y, dis-moi, il sait pas du tout de quoi tu voulais parler en fait.
Qu'est-ce qui se passe quand on tape dans la garde et qu'on se prend des pressings infinis ? Qu'est-ce qu'on peut faire ?
Ah oui, tu peux repousser l'adversaire.
Voilà.
En option défensive. Et surtout, en fait, il faut. Ce qui est super, c'est qu'il faut bourrer les boutons pour repousser l'adversaire.
C'est un système qui est quand même assez exceptionnel parce que...
T'es en garde, en fait.
T'es en garde.
Ouais.
Ton adversaire, il déluge de chaîne combo dans ta gueule. Tu peux rien faire, c'est une horreur et tout. Et donc, tu vas avoir la possibilité de repousser l'adversaire. Mais alors, c'est là que ça devient vraiment super compliqué. C'est que le système de tech hit, c'est en grosso modo, il faut appuyer le plus rapidement possible sur tous les boutons, mais pas en même temps, ça fonctionne pas. Il faut faire une succession de boutons.
Une sorte de chaîne combo à l'envers, finalement. Hein.
Voilà, on fait des chaînes combo à l'envers, et
en garde.
Plus on en fait dans le laps de temps pendant lequel on se réveille, plus on a de chances, parce qu'il y a un paramètre c'est une probabilité, que le tech hit se fasse. Par exemple, si on appuie successivement sur les 6 boutons, on a, je sais plus si c'est 70 ou 80% de chances que le tech hit s'active. Si on fait juste un bouton, c'est 10%.
Oh putain !
Non, mais ils sont allés super loin. Et c'est vraiment... En plus, c'est pendant le block stun.
Mais c'est super court, les block stun, en plus. Mais
attention, parce que le block stun, il est court, oui et non. Parce que si le mec, il arrive et qu'il commence par un coup en l'air et qu'il enchaîne sur un chaîne combo...
C'est toujours en block stun. Tu peux le faire, ton tech hit.
Le problème, c'est que ça dépend, en plus. C'est parce que le block stun peut être assez court... pour que quand tu mâches tes boutons, t'as
tu sors un coup
qui sort
oui.
et tu te manges un counter.
Voilà. Et c'est là que ça devient complètement.
Et là, c'est là qu'on a perdu 98% des joueurs.
Des joueurs. Enfin, en tout cas, en dehors du Japon, voilà. Parce que la série, c'est là qu'elle a éclaté au Japon. Ouais. Bon, cela dit, il y a eu quand même une petite communauté qui jouait dans les pays occidentaux.
Alors, en France, chaque sortie console a quand même été un flop. Hein.
Oui, oui, non, mais ça, c'était évident.
Mais tu m'étonnes, attends, le coup de la probabilité des 6 boutons à mâcher, mais laisse tomber. Quoi.
Non, mais on n'en parlait même pas, dans la doc. Hein. Française, ils n'en parlaient même
pas. Ils n'en parlaient même pas dans la doc.
Même hormis ça, je veux dire, Vampire est un jeu, bon, on va le dire, hein, avec un design très particulier, avec un game system également très particulier. Et de toutes les manières, on a toujours été un peu réact de toute façon, en Europe concernant les jeux de baston. Et c'est vrai qu'on en revient au même quand on sort de KOF ou de Street Fighter. C'est un peu le désert de Gobi, tu vois. Mais
et encore KOF.
KOF, il y a une belle époque quand même au 98, tout ça. Enfin, c'est pas le sujet.
C'est en arcade. À part Tekken, Street Fighter.
Vampire.
Il est complètement de l'autre côté du spectre.
Moi, ça me fait doucement rigoler quand tout le monde est là à se toucher sur un retour de Darkstalkers, parce qu'on sera toujours sur le même.
On sera toujours 5 joueurs.
Et jouer en France et à faire des sessions dessus. Bon, 6 avec. Avec TMDJC quand même, on va pas l'oublier. C'est le bienvenu d'ailleurs à la maison quand je mettrai Vampire Survivor dans la borne.
Je t'aime.
D'accord. Alors, donc on a dit, il y a les Kuex, il y a le Tech Hit, il y a les Chain
la
Combo.
La poursuite. En fait, à chaque fois qu'ils ont rajouté quelque chose d'offensif, ils ont rajouté en fait
un truc défensif
qui permettait de contrer ça.
Voilà. Donc au final, ça devient, dans ce jeu-là aussi, on retrouve un petit peu tu l'as déjà dit, c'est un jeu bac à sable finalement, mais où aussi les joueurs doivent. C'est toi qui l'as dit, un jeu bac à sable, où les joueurs doivent devenir aussi multifonctions, ils doivent apprendre plein de game systems qui ne servent pas tout le temps, mais qui servent qu'à des moments spécifiques aussi.
On est vraiment dans la débauche de gameplay. Hein. Voilà. C'est
ce qui plaît d'ailleurs aux Japonais. Hein. Le jeu est un vrai succès au Japon.
C'est un succès au Japon, vraiment. De toute façon, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un jeu très japonais dans l'approche finalement.
Je nuancerai juste quand je dis un vrai succès au Japon. Vampire, même au Japon, ça reste un jeu de niche. Pour être très sérieux, c'est pas non plus tous les Japonais qui se mettent à jouer à Vampire en disant c'est un jeu génial, tout, etc.
Non.
Le jeu, il est pas accessible non plus. Hein, mais c'est vrai que le succès qu'il a au Japon, on le retrouve pas du tout en France, par exemple.
D'accord.
D'ailleurs, quand on va dans une salle d'arcade au Japon, une grosse salle d'arcade, hein, parce que la salle de quartier avec 3 bandes Street 4 et Tekken, c'est pas le cas, mais dans toutes les grosses salles, on va trouver un
vampire, quoi.
Le 2, enfin le Night Warrior.
On va
trouver un. Non, attendez. Un
Savior, tu veux dire ? Un Savior ?
Non, il y a un Savior, oui, mais ça, on y reviendra plus tard, mais le 2 est présent dans les salles d'arcade également.
D'accord, ok.
Parce que c'est le deuxième plus joué derrière le Savior.
D'accord, donc il est resté quand même dans les mémoires, cet épisode.
Quand on parlait de World Heroes, il y a des jeux qui continuent à être joués, même quand il y a une version plus récente qui sort, et clairement, en fait, le Vampire Hunter est un jeu qui est toujours joué à l'heure actuelle.
D'accord, ok.
Donc, parce que c'est un peu, voilà, c'est le. En fait, pour moi, c'est le premier. Était un peu le prototype et le deuxième c'était voilà.
Street Fighter 2.
Exactement.
Voilà.
C'est le même principe, quoi, en gros.
Si j'ai plus de sympathie pour le premier Vampire que pour le premier Street Fighter. Ça, c'est un autre problème.
Est-ce qu'on a fait le tour de tout ce qu'on avait à dire sur ce deuxième Vampire ?
Alors, encore, je te dirais le tour, traité, non, mais oui.
Alors, vas-y, on a encore
Là, sinon, qu'on puisse garder vraiment du temps pour Savior.
D'accord. Là, on a encore. On est à une heure. Écoute, on a encore 10 petites minutes. Donc, si on veut rajouter quelques petites anecdotes croustillantes sur le développement des deux premiers, sur ce genre de choses, parce que.
La petite anecdote qui peut être rigolote, c'est qu'au départ, Anita, qui est donc le personnage qui est avec Donovan, devait avoir des coups spécifiques et on devait envoyer le personnage en fait pour à un moment choper l'autre, ce qu'on a retrouvé finalement dans Skullgirls quelques années plus tard avec la tête, etc. Finalement, c'est quelque chose qui n'a pas été gardé, mais ils étaient partis assez loin sur les deux nouveaux personnages en fait, sur un gameplay un peu délirant.
On a déjà un peu ça avec Donovan, parce que Donovan peut envoyer son épée et la planter. Dans le sol,
mais là en fait tu gérais en fonction des boutons que tu laissais appuyer ou pas,
donc
la petite fille ou l'épée, voire encore d'autres choses.
À la Zappa dans Guilty Gear finalement.
Exactement, voilà. Tout à fait.
D'accord.
Et c'est deux choses finalement qui n'ont pas été gardées
pas
à la
fait.
Fin. Bah, en fait, ils trouvaient que c'était tout simplement trop compliqué en fait pour les joueurs à l'époque.
Ouais, c'est vrai qu'il y avait déjà quand même beaucoup de choses. Oui.
Parce qu'il faut aussi rappeler, parce que je ne sais pas si on l'a dit, mais son épée, il ne la tient pas.
Il ne la tient pas. Elle flotte dans son dos.
C'est un personnage à part entière.
Voilà. Donc, ok, bon, bah, je crois qu'on a à peu près fait le tour. Il n'y a rien d'autre à rajouter.
Est-ce qu'il découpe les chiens fous d'Honoré?
Ah, je ne sais pas.
La question, tu disais deux nouveaux personnages, mais du coup, c'est Donovan et c'est qui l'autre?
Laylay.
Ah oui, pardon, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de Laylay.
Non, c'est vrai.
Parce que Laylay, qui est un personnage très intéressant,
qui a un gameplay hallucinant.
Qui a un gameplay génial.
Allons-y, alors parlons un peu des personnages, vu qu'il nous reste un peu de temps là.
Ben voilà, parce que. On a parlé effectivement des autres, mais Laylay, donc on en disait, c'est un fantôme, enfin c'est un zombie en fait.
Oui, c'est un zombie chinois. Quoi.
On dit que c'est un fantôme, mais c'est plus un zombie du coup factuellement. Et elle se bat en fait avec plein de trucs dans ses manches. Voilà, elle a des grandes manches et il y a plein d'objets qui en sortent. Ça va être des couteaux, ça va être des chaînes pour s'attacher, ça va être d'une scie circulaire, une espèce de roue.
De roue pour pour faire les champs.
Voilà. Moissonneuse.
Elle sort des poids qui font tomber des trucs du plafond. Enfin,
normal.
Pour le coup, le perso est vachement sympa et c'est un gros perso de Keep Away. Ouais. De tenir à distance, comment est-ce qu'on pourrait
dire ça? Qui a un dash en l'air qui est absolument
elle court,
génial.
Elle run dans les airs, dans les airs.
Oui, pour le coup, c'est un run.
Pour le coup, c'est un run, c'est-à-dire elle fait galoper ses petites jambes dans les airs et ça, c'est quand même assez exceptionnel.
Alors que quand elle est au sol, en fait, elle marche.
Elle disparaît,
c'est
quand,
ça.
Quand ouais. tu. Ouais.
Voilà.
Elle est entraînant ses bras derrière qui sont pour le coup vachement longs. Et c'est
marrant parce que c'est un des personnages avec Felicia et Morrigan qui est un des plus iconiques en fait de la série, j'ai l'impression. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que les personnages féminins sont restés plus iconiques dans Vampire.
Il faut savoir une chose qu'on a effectivement pas dit, c'est que parallèlement à la sortie des jeux, à cette époque-là, Capcom va sortir énormément de dramas autour de Street Fighter et autour de Vampire.
Alors les dramas, on rappelle ce que c'est.
Alors les dramas, en fait, c'est tiré en fait des.
C'est des joueurs King of Fighters qui se prennent la tête.
Oh non.
Ouh.
les dramas sont des sont en fait ça c'est tiré des émissions américaines des années 30 en fait où on racontait une histoire
en
audio et donc ça les Japonais c'est quelque chose qu'ils ont gardé et donc il y a beaucoup de CD en fait qui sortent. Alors ils sont passés par l'étape cassette mais maintenant c'est des CD qui sortent où vous allez pouvoir écouter une histoire racontée souvent par les doubleurs officiels quand c'est des dessins animés, voire quand c'est des jeux aujourd'hui maintenant parce que c'est souvent les mêmes doubleurs qui font les deux et avec des fois des doubleurs spéciaux qui sont ultra connus en disant voilà tel personnage sera joué par tel doubleur, donc il y a vraiment des dramas qui sortent des fois qui font vraiment envie aux Japonais
et tout le temps en fait puisque effectivement ils ont une grosse culture du doublage et des doubleurs, enfin les doubleurs sont limite aussi adulés que les acteurs.
Tout à fait. D'accord. Avec parfois des chansons spécifiques qui vont sortir sur un drama, qui vont ressortir des fois derrière sur un CD juste avec la chanson. Bref, à l'époque, Shenko fait partie des personnages qui sont vraiment mis en lumière.
Shenko Laylay, en
fait. Avec Laylay, tout à fait. Avec Felicia et donc Morrigan, qui sont grosso modo les trois nanas vraiment du jeu. Et voilà, quoi. Pour les Japonais, c'était juste.
Ouais. Alors il y a Weko qui me reprend et qui dit chez les otaku. Mais de toute façon, on parle de vampire. Donc, de facto,
de base.
Alors en fait non mais c'est moi qui l'ai pas précisé. Oui, je dis que les doubleurs sont adulés mais chez les otaku nous sommes bien d'accord. Voilà.
Bon, bah je crois que si on a fait le tour sur les deux premiers titres, on va s'arrêter là et puis on va enchaîner dans une deuxième partie de podcast donc sur Vampire Savior et ses deux add-ons. Donc rien à rajouter, c'est bon, pas de regrets, rien du tout, etc. Tout va bien.
C'est bon okay. Pour moi.
Bon, et bah écoutez, chers auditeurs, donc on va s'arrêter là pour cette première partie sur la série Vampire. Et on se retrouve donc juste un tout petit peu plus bas dans la page pour le deuxième player audio où, pour nous écouter parler de la suite de la série.
Cliquez, bande de...